En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
N'a entendu prononcer le mot de djihad aujourd'hui. Il y a 40 ans, pourtant, en Occident, personne ou presque en dehors des spécialistes n'en parlait. Avec la révolution iranienne, d'abord, puis la montée de l'islamisme sunnite radical, il s'étale aujourd'hui dans tous les journaux, sans beaucoup de discernement parfois. Mais surtout, depuis le début des années 90, il est devenu un sujet d'étude et a donné lieu à de très nombreuses publications. En Occident, on connaît bien les expressions « guerre juste », on vient d'en parler longuement, développée par saint Augustin, mais on a vu que l'idée est antérieure encore à saint Augustin, ou de « guerre sainte » utilisée pour les croisades. Le mot « djihad » n'est la traduction ni de l'un ni de l'autre. Certains ont proposé « guerre légale », car il est prescrit par la loi musulmane contre les infidèles pour étendre le territoire de l'islam. Et les ouvrages juridiques comportent très souvent un chapitre sur le djihad. Littéralement, ce mot signifie « effort dans un but déterminé ». Et quand l'expression « fi sabil Allah », c'est-à-dire « dans la voie de Dieu », l'accompagne de manière explicite ou sous-entendue, il signifie alors « effort de guerre » ou « combat » pour Dieu. La doctrine du djihad ne s'applique en théorie que dans ce que l'on appelle le Dar al-Harb, c'est-à-dire le territoire de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas mené en principe à l'intérieur du Dar al-Islam ou territoire de l'islam, ni contre les adversaires musulmans, mais on y reviendra, ni contre les non-musulmans qui peuvent vivre librement s'ils acceptent l'autorité de l'islam. Je ne reviendrai pas ici sur les origines du djihad à l'époque du prophète, je ne retracerai pas non plus l'histoire des croisades. C'est moins à la guerre sur le terrain que je m'intéresserai qu'au discours sur le djihad au XIIe et XIIIe siècle en tant que construction idéologique, au rapport entre djihad et pouvoir, djihad et religion, avec une question centrale, le djihad entre le début du XIIe et la fin du XIIIe siècle, a-t-il été défini, compris, appliqué comme un devoir religieux, une guerre sainte, une idéologie politique ou les trois à la fois? Les sources pour en parler sont relativement nombreuses. Des chroniques, des dictionnaires biographiques, des miroirs des princes, une littérature poétique, la titulature aussi qu'on trouve en tête des documents ou en épigraphie, mais surtout les traités de djihad. Et trois traités de l'époque des croisades ont particulièrement retenu notre attention, celui d'Al-Soulami, qui est un juriste de Damas, auteur d'un traité de djihad au lendemain de l'installation des Francs en Orient, vers 1105, dans lequel il cherche à réveiller les consciences des souverains musulmans, celui d'Ibn Asakir, un célèbre traditionniste damascain, qui rédigea à la demande du souverain Zengide de l'époque, Noureddin, un traité comportant 40 hadiths d'incitation au djihad, et le traité d'Al-Tarsusi, auteur d'un traité d'art militaire dédié à Saladin, dans lequel est conservé un modèle de sermon d'incitation au djihad. Au XIIe siècle, comme dans les premiers siècles de l'islam, la première justification du djihad est d'ordre religieux. Il n'y a là rien de très original. Il a été rappelé hier que toute guerre dans le Proche-Orient ancien impliquait les divinités et les trois grandes religions monothéistes ont repris l'idée que la guerre peut être une expression de la foi. Le djihad est une expression de la foi, tout d'abord parce qu'il est fondé sur de nombreux versets du Coran et sur de nombreux hadiths. Je rappelle que les hadiths, ce sont les paroles et les gestes du prophète. Ces versets et ces hadiths qui encouragent le combat contre les ennemis de la foi. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, le Coran 9, 29, ou encore Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Vous croirez en Dieu et en son prophète, vous combattrez dans le chemin de Dieu avec vos biens et vos personnes. Voilà un bien pour vous si vous saviez. Dieu vous pardonnera vos péchés, il vous fera entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux, dans des demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà le bonheur sans limite. Tous les traités de djihad reproduisent ces versets du Coran et bien d'autres, ainsi que de nombreux hadiths tout aussi favorables au djihad, tel le premier hadith cité par Ibn Asakir dans son traité des 40 hadiths, lorsqu'il dit « On demanda à l'envoyé de Dieu quel est l'aspect de la foi le plus important ?» Il répondit « La croyance en Dieu ». On lui demanda alors « Et qu'est-ce qui vient ensuite ?» Il répondit « Ensuite vient le djihad dans la voie de Dieu ». Le djihad est donc légitimé par l'objectif qui lui est fixé par le Coran et les hadiths. Le prophète lui-même a mené de nombreuses batailles, 27 campagnes durant les 10 dernières années de sa vie. Or, le prophète est un modèle que chaque musulman se doit d'imiter. C'est la raison pour laquelle, quand un souverain est loué, il est rapproché par ses panégyristes du prophète lui-même. Ainsi, à l'époque des croisades, les combats de Saladin contre les Francs furent rapprochés des combats du prophète contre la Mecque, et son secrétaire et biographe, en rapportant ses hauts faits, est convaincu que la conquête de Jérusalem en 1187 n'est rien moins qu'une nouvelle égire pour l'islam. Le djihad est un combat sacré parce qu'il est donc voulu par Dieu. Dieu le veut, tel était aussi le cri qui accompagnait le départ des croisés occidentaux. Dans ses combats contre ses ennemis, le prophète a non seulement bénéficié du soutien de Dieu, mais il a obtenu le renfort actif de ses armées d'anges ou d'archanges. Le djihad revêt ainsi un aspect cosmique, dans lequel les armées des cieux et de la terre, selon l'expression coranique, luttent contre les infidèles alliés de Satan. Lorsque vous demandiez le secours de votre Seigneur, il vous exauça, dit le Coran, sourate 8, verset 9, « Je vous envoie un renfort de 1000 anges, les uns à la suite des autres. » Et des hadiths rapportent aussi que lors de la bataille de Badr en 624, le prophète implora l'aide de Dieu qu'il assista avec une troupe d'anges. Cet épisode est illustré dans l'enluminure que vous voyez sur l'écran, une enluminure tardive puisqu'elle date du début du 19e siècle, mais où on voit l'illustration de la bataille de Badr et le prophète représenté par un symbole en forme de flamme posée sur un dromadaire et deux anges qui viennent à son secours, dont l'un porte un sabre qui lui tend. Cette même idée de combat voulu par Dieu est reprise par Saladin lorsqu'il s'adresse à l'amiral sicilien qui tentait de négocier avec lui après la prise de Latakia en 1188, et lorsque Saladin lui répond « C'est Dieu qui nous a ordonné de soumettre la terre, c'est un devoir pour nous de lui obéir et de nous dévouer au djihad, c'est lui qui nous rendra maître de ces pays ». Le djihad est aussi lié à la purification spirituelle. Comme le dit Al-Sulami dans son traité, les musulmans doivent d'abord se purifier spirituellement, lutter contre leurs mauvais penchants, c'est ce qu'on appelle aussi le djihad intérieur ou le djihad majeur, avant d'entreprendre le djihad militaire. L'attaque franque est une punition autant qu'un avertissement pour les musulmans qui se sont laissés aller à un déclin spirituel. Le réarmement moral, c'est-à-dire la réforme des mœurs et des croyances, est une condition essentielle pour le succès du djihad. Donnez au djihad de vos âmes la première place avant le djihad de vos ennemis, car les âmes sont pour nous des ennemis pires que ceux-ci. Écartez-les de la désobéissance envers leur créateur, c'est alors que vous remporterez la victoire tant espérée. Une purification spirituelle qui doit aller de pair avec la sincérité des intentions. Al-Sulami affirme que si le djihad est mené non pour contenter Dieu, mais par appât du gain ou par ambition personnelle, il n'a aucune valeur. L'acte n'a de valeur que si l'intention de servir Dieu est sincère, l'intention est connue de Dieu seul, d'où l'importance d'une relation individuelle, personnelle entre le combattant et Dieu. Ceux qui le font sans intention sincère auront droit au statut de martyr ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Le djihad procure en effet récompense et faveur divine grâce aux martyrs. On a déjà cité le verset du Coran qui promet aux combattants le paradis avec un bonheur sans limite. El Tarsoussi affirme lui aussi, soyez sûrs, serviteurs de Dieu, que ce djihad que Dieu vous a rendu capable de faire et vous a facilité, vous sera récompensé d'une façon dont nul orateur ne peut rendre compte, récompense d'une vie éternelle dont la félicité est d'une totale pureté. Et de citer un autre verset du Coran, ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts, ils sont vivants. Coran 3, 169. Le djihad ne mène pas à la mort, mais à la vie. Mourir pour le djihad, c'est donc renaître à une nouvelle vie, celle du paradis, une vie meilleure que celle d'ici-bas. Et loin de craindre la mort au combat, certains vont la rechercher. Certains ascètes de Syrie au XIIe siècle s'emparèrent également de ce thème, comme on peut le voir au travers de deux exemples. Le premier est celui d'un juriste et ascète malékite très respecté de Damas, qui portait le nom d'El-Fandalawi, qui s'établit en Syrie à l'occasion de son pèlerinage. Ce fut un partisan enthousiaste et zélé du djihad. À la fin de sa vie, le vieil homme n'hésita pas un instant à affronter les Francs de la deuxième croisade, sûr qu'il était de gagner son paradis. Ibn Asakir, qui retrace sa vie dans son dictionnaire des personnalités ayant vécu à Damas, écrit « C'est à pied qu'il partit affronter les Francs. On m'a raconté que l'émir Honor, qui était alors le chef des armées, le rencontra avant le combat. Il le trouva épuisé par la marche. Il lui dit alors « Ô cher imam, reviens à ton grand âge, te dispense d'y aller. » Il répondit « Je ne reviendrai pas, nous avons vendu et Dieu nous a achetés. » Il faisait allusion à la parole de Dieu, « Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens contre don à eux du jardin. » Cette rude journée n'était pas encore terminée, qu'il advint ce qu'il avait espéré, le martyr qui le conduirait au bonheur. Je citerai aussi la figure du cheikh Abdallah al-Younini, un hanbalite originaire de Baalbek, considéré comme un saint personnage, qui n'hésita pas lui aussi, malgré son âge avancé et son peu d'expérience militaire, à s'élancer tout seul sur sa mule, épée au poing, au cri de « Allahu Akbar » contre ce qu'il croyait être une troupe d'hospitaliers à proximité du krach des chevaliers et qui se révéla n'être finalement qu'un troupeau d'onagres. Il existe de nombreux autres récits de combattants ou d'hommes de religion qui, sentant la mort venir ou par conviction, s'élancent au devant de l'ennemi pour obtenir le statut de martyr. Un statut enviable si l'on en croit certains hadiths tels que celui-ci sur l'écran qui énumère les privilèges promis aux martyrs. Un enthousiasme qu'il faut cependant modérer par d'autres témoignages, car la question de la recherche du martyr a été souvent débattue par les milieux religieux. S'il existe en effet des hadiths et des prises de position de grands savants musulmans en faveur de celui qui affronte la bataille non seulement pour tuer l'ennemi, mais aussi pour être tué et obtenir ainsi la récompense suprême, si l'on trouve de nombreux récits faisant état de la joie de l'entourage du martyr à l'annonce de sa mort et à l'inverse de sa tristesse à l'annonce de son retour, il existe aussi des versets du Coran et plusieurs hadiths qui déconseillent formellement la recherche du martyr, car c'est à Dieu et non à l'homme de fixer le moment de la mort. C'est pour cette même raison que le suicide est condamné. En outre, sur le terrain, hors des discours officiels et de la propagande, le martyr ne fut pas toujours encouragé, y compris par les plus pieux. L'un des plus proches conseillers de Saladin, le Qadi al-Fadil, qui loue à maintes reprises le djihad, est le même homme qui félicite, dans une lettre privée, le secrétaire Imad ad-Din d'avoir fui devant l'offensive des Francs, car, dit-il, des félicitations pour avoir gardé la vie sauve valent mieux que des félicitations pour le martyr. Une telle déclaration pouvait s'appuyer sur certains hadiths qui privilégient le djihad majeur, c'est-à-dire l'effort en vue de lutter contre ses mauvais penchants, mais aussi sur d'autres hadiths qui affirment qu'on peut sauvegarder la foi par l'étude et l'enseignement de la loi religieuse. L'encre du savant est plus précieuse que le sang des martyrs, affirme même l'un de ces hadiths. Le djihad est aussi très lié à l'essor du sunnisme au XIIe siècle. Les savants qui prêchent le djihad étaient également des défenseurs zélés du sunnisme face au chiisme. Cette défense du sunnisme n'est pas née avec les croisades. Elle commence avec l'arrivée des Seldjoukides en 1055 à Bagdad, une dynastie turque qui renversa la dynastie chiite des Bouyides et qui eut pour ambition de mettre fin à la dynastie chiite du Caire. Toutefois, l'installation des États francs dans la région va provoquer un réel réveil du djihad qui, dans la plupart des cas, fut associé à ce réveil sunnite. Les oulémas cherchèrent en effet à entraîner les souverains et la population à lutter à la fois contre le chiisme, source de division à l'intérieur du monde musulman et allié potentiel des francs, et contre les non-musulmans, les francs, les arméniens ou les mongols. Un très bon exemple de cette association du djihad et de la lutte en faveur du sunnisme est fourni par la titulature de Nour ed-Din, telle qu'elle figure par exemple dans la grande mosquée de Raqqa. Sont associés ici au djihad, en rouge sur l'écran, les qualificatifs de combattants du djihad et des frontières, dompteurs des polythéistes, tueurs des infidèles et des polythéistes. Et à la lutte, je rappelle que par polythéiste, les musulmans entendent les chrétiens, parce qu'ils ne comprennent pas notamment le dogme de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Et à la lutte contre le chiisme, en faveur du sunnisme, ici en vert, le subjugueur des hérétiques. Tous ces titres se retrouve également sur un objet mobilier hautement symbolique du djihad de Nour ed-Din. Il s'agit du minbar qu'il fit construire à Alep en vue de le placer dans la mosquée Al-Aqsa après la conquête de Jérusalem. Dans l'inscription principale qui encadre le panneau latéral de l'escalier, on peut lire « Le combattant du djihad, celui qui défend les frontières contre les ennemis de la religion, que Dieu glorifie ses victoires et préserve sa puissance ». Puisse-t-il renforcer ses partisans, humilier ceux qui lui témoignent de l'ingratitude et lui accorder la conquête de Jérusalem ? Nour ed-Din n'a pas été préoccupé par le seul djihad. Certains historiens ont même tenté de montrer que ses combats contre les Francs n'occupaient qu'une place secondaire dans sa politique, davantage tournée vers la réunification des territoires musulmans. En réalité, sa propagande, telle qu'elle apparaît dans l'épigraphie, montre qu'il voulait apparaître à la fois comme l'unificateur du monde musulman, le restaurateur du sunnisme et le combattant du djihad, trois aspects de sa politique qu'il serait vain de vouloir séparer. Car en effet, le djihad n'est pas seulement un devoir religieux, un combat sacré, un moyen de restaurer le sunnisme, il peut aussi apparaître comme un instrument au service de la politique. Celui d'entre vous qui tue et se situe dans le cercle de l'honneur et marche fièrement parmi ses frères avec une couronne de gloire aux perles et pierres précieuses entremêlées, écrit El-Tarsouci, l'un des objectifs du djihad est bien d'acquérir la gloire et de faire du butin. Un hadith dit « J'ai reçu la permission de faire du butin, privilège dont ne bénéficia aucun apôtre avant moi ». À l'époque des croisades, il est bien sûr impossible de séparer le djihad, conçu comme un combat dans la voie de Dieu, du désir beaucoup plus matériel, terre à terre, de reconquête territoriale face aux Francs, ou des ambitions personnelles de tel ou tel souverain, car tout combat contre les Francs est présenté comme un djihad. Mais plus important encore, le djihad est apparu à cette époque comme un facteur d'unité politique. Car l'appel au djihad s'accompagne très souvent d'un appel à l'unité politique, condition essentielle de son succès, comme nous l'avons vu pour Nour ed-Din. Et la victoire sur l'ennemi renforce et consolide cette unité. El-Soulami écrit ainsi « Le souverain doit se consacrer à ses rapports avec les souverains d'autres pays, entendez musulmans, Syrie, Jésirée, Égypte et régions limitrophes, car la terreur des Francs peut réconcilier les haines anciennes et les inimitiés secrètes des habitants de ces contrées, aussi bien que les détourner de leur rivalité et de leur jalousie mutuelle. » Le nouvel essor du djihad, en identifiant un ennemi commun, a permis de rassembler la communauté sunnite autour d'un chef charismatique. Il participe de cette façon au renforcement de la cohésion musulmane. Saladin fit de cette unité musulmane la condition essentielle pour mener un djihad victorieux contre les Francs. Toute sa propagande des 10 premières années de son règne insiste sur le fait que l'unité musulmane sous son autorité est la condition première de son djihad, ce qui lui permet de conclure, une fois cette unité réalisée après la prise d'Alep en 1183, dans une lettre envoyée à l'un de ses émirs, « Maintenant que toutes les contrées musulmanes placées sous notre juridiction ou celles de nos subordonnés, nous devons en retour de cette faveur du ciel diriger notre résolution, utiliser toute notre puissance contre les francs maudits. Nous devons les combattre pour la cause de Dieu. Nous avons vu que le djihad au XIIe siècle a souvent été associé à la lutte en faveur de la restauration sunnite. Peut-on aller plus loin et affirmer qu'il fut décrété par les sunnites aussi bien à l'encontre des infidèles, francs, arméniens, mongols, qu'à l'encontre des chiites et des rebelles musulmans? Il s'agit là d'une question souvent débattue par les juristes, et les réponses ont varié selon les courants religieux et les époques. Les chiites, par exemple, et les kharijites, n'hésitent pas à employer ce terme pour les combats contre des musulmans. Les docteurs sunnites se sont montrés plus réticents, même si cette question de la rébellion est souvent abordée dans les chapitres qui traitent du djihad. Sur le terrain, à l'époque des croisades, le jeu des alliances a parfois provoqué des combats entre des musulmans alliés aux francs contre d'autres musulmans éventuellement alliés à d'autres francs. Dès lors, le djihad décrété par des musulmans contre les francs visait indirectement leurs alliés musulmans. Ces divisions ont provoqué une certaine ambiguïté dans le discours sur le djihad. Ce fut le cas notamment lors du pacte conclu entre le sultan d'Égypte El-Kamil et l'empereur Frédéric II en 1229, rétrocédant Jérusalem aux francs, à l'exception de l'esplanade des mosquées. Comme El-Kamil cherchait alors à s'emparer de Damas aux dépens de son neveu, ce dernier demanda à un célèbre sermonnaire de prêcher dans la grande mosquée de Damas afin de déplorer la perte de Jérusalem. Le sermonnaire arracha des larmes à l'assistance, sans aller toutefois jusqu'à prêcher le djihad contre le sultan du Caire. Et dans les traités d'El-Soulami et d'El-Tarsoussi, il n'est question que de combats contre les infidèles. Le traité d'Ibn Asakir, lui, est plus ambigu, car il dit avoir rédigé son traité dans le passage qui est sur l'écran, son traité à la demande de Noureddin pour inciter au combat contre ce qui est en rouge sur l'écran, les infidèles, les rebelles et les récalcitrants. Il est possible qu'ici les chiites soient aussi visés. Toutefois, même lorsque le juriste rigoriste Ibn Taymiyyah admet au début du XIVe siècle le djihad contre les chiites ismaéliens, ou les Nusayris, actuellement appelés les Alaouites, ou les Druzes, il prend soin de déclarer que ceux-ci ne peuvent être considérés comme des musulmans. « Ce ne sont pas des musulmans, écrit-il, selon le jugement de tous les partis de l'islam, c'est-à-dire dans l'opinion des savants, des gouvernants et de la population, hanafites, malékites, chafiites, hanbalites et autres. Les combattre est donc permis. » Cet argument qui consiste à autoriser le djihad contre d'autres musulmans au prétexte qu'ils n'appliquent pas vraiment la loi musulmane est parfois repris par les mouvements fondamentalistes contemporains qui n'hésitent pas à citer à ce sujet Ibn Taymiyyah. Sur un plan politique, le djihad a aussi été utilisé comme argument de légitimité des souverains. Il a permis en effet à plus d'un souverain de se présenter comme l'homme de la situation, un argument particulièrement important dans le cas de souverains dont le pouvoir acquis par la force pouvait être contesté. Saladin, qui succéda à Noureddin aux dépens de son fils en 1174, écrivit au calife de Bagdad l'année suivante « Si notre opinion obtient la haute approbation du calife, nous combattrons avec un glaive qui est redoutable, même dans son fourreau. Par la volonté de Dieu, nous atteindrons au but de nos désirs, sans que les croyants n'aient besoin de sortir leurs mains de leur manteau, et nous délivrerons la mosquée où Dieu transporta son serviteur pendant la nuit. » L'objectif de Saladin est clair, obtenir le soutien du calife sunnite de Bagdad, sans lequel son autorité sur les territoires musulmans ne serait pas reconnue. Pour l'obtenir, il souligne sa volonté de mettre son expérience militaire au service du djihad pour la délivrance de la mosquée de Dieu, c'est-à-dire Al-Aqsa, lieu saint de Jérusalem. La propagande en faveur du djihad était pour Saladin le meilleur moyen d'installer son pouvoir et d'obtenir l'indispensable reconnaissance du calife. Son entourage développa donc un discours qui le présenta comme l'unique souverain capable de vaincre les francs, comme l'affirme son fidèle secrétaire Imad ad-Din après la prise de Jérusalem en 1187, dans ce passage où il dit « Dieu a rendu les autres souverains incapables d'obtenir son assistance », l'assistance de Dieu ici. Inversement, ses adversaires furent accusés de collusion avec l'ennemi. Le djihad sert alors d'argument au sein même de l'islam pour dévaloriser l'adversaire. Et dans le cas de Saladin, ce sont les Fatimides chiites ou les Zengides qui sont accusés de ne pas mener le djihad et de collaborer avec les Francs. Et comme pour Noureddin, la titulature de Saladin témoigne de l'importance du djihad dans sa politique. On notera en effet l'association qui est faite envers ici entre l'appui qu'il a obtenu de Dieu, son action de combattant du djihad en rouge, le soutien que lui accorde le calife en jaune, et son rôle de serviteur des lieux saints liés au prophète, les deux nobles sanctuaires, en bleu. Autant d'arguments qui lui confèrent donc sa légitimité politique. Dans le cas de Baybars, arrivé au pouvoir après le meurtre de son prédécesseur, c'est son djihad contre les Francs et surtout contre les Mongols qui est présenté par ses biographes panégyristes, Ibn Abd al-Zahir en particulier, comme sa qualité première. Ces victoires légitiment en effet un pouvoir acquis suite à un régicide. L'auteur décrit la prestation de serment que Baybars prête aux deux califes successifs qu'il place sur le trône en Égypte en 1261, serment par lequel il s'engage à observer la justice et la loi religieuse, à protéger les musulmans et à mener le djihad contre les ennemis de Dieu. Ce djihad est également évoqué dans la khutba, c'est-à-dire le sermon prononcé par le deuxième calife que Baybars installe sur le trône, calife abbasside rescapé du massacre des Mongols à Bagdad. Et dans ce sermon, le calife, le nouveau calife, met l'accent sur l'image d'un sultan qui a sauvé l'islam en menant le djihad contre les Mongols qui ont renversé les califes sunnites de Bagdad en 1258. Sachez, ô hommes, que l'imamat fait partie des préceptes de l'islam et que le djihad est prescrit à tous les hommes, mais que l'étendard de ce djihad ne saurait être brandi sans l'union de la parole des serviteurs de Dieu. On retrouve ici l'idée d'unité musulmane, condition essentielle d'un djihad victorieux. Et le calife de poursuivre, mettez-vous rapidement à l'œuvre pour redonner vie au djihad. Ce sultan, El-Malik El-Zahir, c'est-à-dire Baybars, le seigneur illustre, le savant, le juste, le combattant du djihad, le pilier de la religion et de l'État, est venu au secours de l'imamat, c'est-à-dire du califat abbasside sunnite, qui n'avait plus qu'un petit nombre de défenseurs. Il a dispersé les armées des infidèles, c'est-à-dire les Mongols, qui avaient pénétré au centre de nos pays. Grâce à sa détermination, la reconnaissance du pouvoir légitime a été rétablie et la dynastie abbasside a vu croître ses armées. Ainsi, Baybars, en repoussant les Mongols qui avaient semé le chaos sur leur passage. Baybars est d'ailleurs comparé parfois à Alexandre qui, dans le Coran, sous le nom de Zulkarnain, le bicornu, repousse les peuples de Gog et Magog. Et en rétablissant la dynastie abbasside, Baybars a donc acquis sa légitimité et son droit de régner. Il est donné comme modèle à suivre par toute la communauté musulmane et le djihad ici est clairement décrit comme le facteur principal de légitimation d'un pouvoir acquis par la force. Enfin, le djihad fut un facteur de renforcement du rôle des oulémas dans la société. Après la mort du prophète, ce sont les oulémas qui ont élaboré la théorie du djihad à partir du Coran et des hadiths. Les plus anciens traités de djihad datent de la fin du 8e siècle. Ils furent rédigés par des oulémas eux-mêmes combattants. Les oulémas se sont sentis investis d'une nouvelle mission qui n'était pas dénuée d'arrière-pensée politique. Beaucoup de ces savants sunnites jouèrent un rôle actif dans la propagande du djihad, non seulement par leurs enseignements ou leurs ouvrages, on vient d'en voir plusieurs exemples, mais en participant aussi aux campagnes militaires. C'est à eux également qu'on faisait appel pour négocier les trêves, rédiger les traités, légaliser les levées d'impôts extraordinaires et appeler au combat du haut des minbars dans la mosquée le vendredi midi ou dans les sermons plus populaires. Les armées de Noureddin, comme celles de Saladin, comprenaient des hommes de religion et de loi qui parcouraient les rangs des combattants pour leur lire des versets du Coran ou des hadiths et les inciter au djihad. Et les propos d'El-Tarsoussi, qui sont ici à l'écran, précisent qu'il faut confier cette tâche à un homme d'éloquence et de courage, en sont donc un très bon témoignage. En conclusion, je dirais que les fondements religieux du djihad ne font aucun doute. Le djihad continue d'être présenté à l'époque des croisades comme un combat sur la voie de Dieu, fondé sur des textes sacrés, voulu par Dieu et procurant des récompenses dans l'au-delà. Sans être une idéologie politique, car il ne propose aucun système politique, le djihad ne fut pas moins instrumentalisé, utilisé comme arme politique pour unifier le monde musulman, politiquement et religieusement, et pour légitimer des pouvoirs acquis par la force. Le discours développé dans les traités de djihad à l'époque des croisades ont un point commun, c'est leur manque d'originalité. Ils ne présentent le plus souvent qu'une suite de hadiths et de versets du Coran incitant au djihad, car ce qui est prêché, c'est avant tout l'imitation du prophète et des premiers musulmans. Mais ce manque d'originalité n'a pas été un frein à leur diffusion, comme en témoignent les marques de lecture et d'audition retrouvées sur l'unique manuscrit conservé du traité d'Ibn Asakir, qui atteste qu'il fut enseigné à plusieurs reprises dans les mosquées de Damas entre la fin du XIIe et le début du XIVe siècle. Par ailleurs, si l'engagement des oulémas dans le djihad, y compris armes à la main, n'est pas nouveau, ce qui l'est davantage à l'époque des croisades, c'est l'association étroite entre le djihad et la lutte en faveur du sunnisme. Enfin, si le djihad a maintes fois été utilisé à des fins politiques au cours de son histoire, pour étendre un territoire ou légitimer un pouvoir, les oulémas ont dû s'efforcer à chaque fois d'adapter leurs arguments au contexte environnant. Dans le cas de Saladin, c'est la lutte contre le chiisme, la reconnaissance du calife sunnite et l'unité du monde musulman qui constituèrent le socle sur lequel bâtir son djihad. Alors que dans le cas de Baybars, le chiisme ayant perdu le pouvoir et l'appui du calife installé par lui au Caire lui étant tout acquis, c'est son djihad contre les Mongols qui a paru comme le fondement essentiel de sa légitimité. Je vous remercie.